Russians.
Oh, those Russians. Bienvenue au lendemain de la veille sur CKET 90.3 FM. On a commencé ça en disco, mesdames et messieurs. Disco comme Rasputin. Moi, c'est cette chanson-là, elle a une place particulière dans mon cœur parce que quand j'ai commencé à faire de la radio au Cégep de Bois de Boulogne, à CJRB, je crois que ça s'appelait, au pavillon des sciences pures qui était... Il y en a un bas, c'était Ignace Bourget, puis l'autre, c'était Saint-Paul, un des deux, who cares. Notre émission à Brigitte et moi, c'était Poutine Party. Et le vinyle qu'on mettait, c'était un petit 45 tours, c'était ça. C'était Poutine Party avec Ross Poutine. Et grosse émission aujourd'hui, on a un invité, Matt Rock est de retour!
Hey, salut, c'est moi Mathieu Beauséjour, c'est FDJ Montréal.
Yeah, represent, he's in the house. Il va nous spinner ça aujourd'hui.
Mais hein, j'ai toute une programmation.
OK. Hey, je suis très content de t'avoir parmi nous. Rasputin, parle-moi de ça. C'est trop capoté.
C'est un chef-d'œuvre. Boney M, c'est un chanteur afro-germanique. C'est un chanteur allemand. Et tous ses choristes sont noirs. Puis je savais même pas qu'il y avait une grosse communauté afro-germanique. Mais ça a été comme tellement... En fait, le tube qui les a mis sur la map, c'était la chanson d'Ali Cool. Puis Rasputin, c'était comme leur deuxième succès, là, leur deuxième hit.
Puis là, on parle de quelle année à peu près?
Ça a été fait en 1977. Là. C'est en même temps que
le punk. Oh,
le punk!
Disco, c'est ensemble, hein, ça va main dans la main.
Ça, c'est deux ennemis, Studio 54 puis CBGB, c'est pas bien loin l'un de l'autre, mais ils se détestaient. Mais en même temps, je pense que les punks écoutaient secrètement du disco en cachette.
En cachette, ils aimaient ça dans leur fort intérieur. Mais je sais pas si tu te rappelles, juste une petite parenthèse, il y a un film de Spike Lee qui s'appelle Summer of Sam.
J'adore, avec Adrian Brody.
Exact, puis c'est vraiment ça. Là,
c'est
t'sais,
exactement ça.
C'est le punk d'un bar, le disco de l'autre, puis le tueur qu'on appelait le tueur de Sam.
Oui.
Fait que c'est fou. Mais c'est, bon, on parlait de Travolta puis de Saturday Night Fever, tout le disco. On est des punk rockers dans l'âme, mais nos parents, je pense, écoutaient du disco. Puis le vinyle de Saturday Night Fever, Grease, ça joue énormément. Là.
Ah, c'est clair. C'est des classiques intemporels. Puis ça va tellement faire lever des parties pour le restant de l'humanité. Je pense que même dans 50, 60, 100 ans d'ici, ça... la musique pop d'aujourd'hui qui est comme un peu trop d'auto-tune dans toutes les vocales. Je pense que c'est quelque chose qui va être plus éphémère, tu sais, que tous ces succès, surtout des enregistrements analogues comme ça, tu sais, la richesse du son analogue. C'est en 1984, quand les enregistrements numériques sont arrivés, ça a un peu gâché, puis ça a compressé beaucoup dans le son. Puis moi, en tout cas, c'est une des raisons principales, dû au fait aussi que c'est le Golden Age Punk, c'est 76 à 83. Après 83, il y a encore des bons trucs qui ont sorti, mais pour moi, c'est comme...
L'âge d'or du punk.
Oui, c'est l'âge d'or de la bonne musique. Parce que le punk est arrivé, puis tous les sous-genres qui sont arrivés avec le punk, puis on va en écouter une couple de sous-genres aujourd'hui, parce que le punk a donné naissance au post-punk, a donné naissance au New Wave, au Power Pop, il y a eu le Cold Wave, il y a eu le No Wave, il y a eu tellement de sous-genres qui gravitaient autour de la scène punk, ça donnait naissance à tellement de trucs bizarres qui fait en sorte que la musique d'aujourd'hui est ce qu'elle est, surtout dans le milieu underground.
Ils sont allés pas mal chercher ça là-dedans, tu sais, sont allés puiser là-dedans le meilleur, puis ils l'ont accéléré, ils l'ont ralenti, ils l'ont mis plus pop, mais ça vient du disco puis du punk de ces années-là. Là.
C'est clairement, puis c'est vraiment une période de grande révolution musicale, puis même si dans les années 60, il y avait certains sous-genres qui sont nés, tu sais, comme le garage rock psychédélique, tu sais, aussi avant ça, il y avait le freak beat, tu sais, mais après ça, il y a eu comme le crowd rock, puis tu sais, mais il n'y a pas eu tant de sous-genres qu'il y en a eu dans les années 70. Les années 70, Surtout que la fin des années 60, avec le proto-punk, les Stooges, MC5, c'est les New York Dolls au début des années 70, Rocket from the Tomb, il y avait vraiment quelque chose dans l'air. Puis, tu sais, le glam rock britannique aussi, qui a beaucoup influencé la scène punk américaine et britannique, et un peu partout à travers le monde. S'il n'y avait pas eu Bowie, il n'y aurait peut-être pas eu les Sex Pistols, puis les Clash, puis peut-être pas les Ramones, parce qu'eux autres, c'est plus les Beach Boys, mais puis les Stooges, puis les MC5. Mais en tout cas, bref, il y avait quelque chose dans l'air qui a fait en sorte que en 1976, il y avait des band punk dans toutes les grandes métropoles du monde. Puis moi, je me surprends toujours à écouter des band punk de Pologne ou genre de la République tchèque ou, tu sais,
de la même époque.
Puis, tu sais, ils pouvaient pas s'influencer des bands américains ou des, tu sais, c'était pas les Dead Boys ou les Clash qui les avaient influencés parce que...
Ça existait pas, mais...
C'est ça.
Puis de toute façon, il y avait pas Internet, là. Puis le tape trading était super minimaliste avec des pays aussi éloignés que ça, là.
Tout à fait. Tu sais, puis les bands britanniques qui ont été signés sur les majors, ben les Ramones aussi, là, mais sinon, le reste est quand même très indépendant, fait que il y avait pas de compagnie de distribution pour qu'on trouve du punk dans tous les disquaires, t'sais. Même le punk de LA, c'est parce que Devo était sur Warner Brothers que c'est né, parce que sinon, genre LA, la scène de LA est arrivée après celle de New York, puis il y a tellement de bons bands qui ont découlé de ça. Puis souvent, les bands de LA, on voit ça dans les documentaires punk sur LA, qu'ils allaient dans les magasins de disques, puis là, ils demandaient du Devo, puis ils se faisaient snobber par les disquaires, puis là, parce que le prog, c'était comme la musique, l'ultime musique intellectuelle selon les disquaires de l'époque, là. T'avais tout le temps un espèce de monsieur prog avec une moustache molle, puis une ponytail, là. Puis ils se faisaient juger à fond, puis ils les appelaient les Devo. Ils appelaient les punk les Devo.
Oh my God. OK, c'est un autre crash course. ce matin, là, prenez des notes, les enfants. Il va y avoir un test, puis ça va avoir des morceaux de robot si vous êtes gentils. Hey, je vais faire une parenthèse. On a parlé aussi de... Tu sais, on parle de tout ce mouvement-là. Quand je t'ai connu, je fais un recall, on s'était connu au Cobra, le bar Cobra à Montréal, sur Saint-Laurent.
Et dans l'Italie.
Dans la petite Italie, exactement. Tu sais, le punk, ça ressemble à le lien entre le film de Spike Lee.
Oui.
C'est drôle que quand tu rentres dans ce bar-là, on en a parlé avant que ça commence, le nombre de posters, de drapeaux, tout ça, explique. Quelqu'un qui n'est pas allé, là, juste décris vite, qu'est-ce qu'il y a dans ce bar-là qui me fascine, qui t'a fasciné, qui en fascine d'autres?
Ben, c'est sûr que c'est un voyage dans le temps. C'est des artefacts des années 70, 80, 90. Et on retrouve des jouets en plus des Simpsons. On retrouve E.T. C'est vraiment... On retombe dans...
En enfance.
Oui, tout à fait. Puis en plus, qui ont des machines d'arcade classiques de fighting games. On a le Mortal Kombat, Street Fighter 2, puis on a aussi Killer Instinct. C'est un bar pour la nostalgie. Mais qu'est-ce qui est drôle dans cette nostalgie-là, c'est que la clientèle qui fréquente l'établissement, et c'est 18-25, fait que c'est des gens qui n'ont pas connu ces années-là, puis ils viennent vivre une expérience rétro. Pis c'est ça qui fait toute la beauté de la chose. C'est comme moi, quand je suis DJ à Roquette, j'ai joué de la musique des années 50, genre un peu au début 90, mais à peine. Mais ces jeunes-là, ils sont nés dans les années 2000, ils n'ont pas connu cette musique-là, mais ils viennent vivre une expérience, tu sais. Ils vont écouter du Lana Del Rey chez eux, mais quand ils viennent à Rocket, ils veulent entendre du New Order, ils veulent entendre The Cure, ils veulent entendre du Joy Division, ils veulent entendre genre de la scène post-punk britannique ou américaine. Ils s'en vont là vivre une expérience, puis je pense que c'est important aussi de nos jours d'avoir... c'est justement comme on dit un peu plus tôt, que ce son-là analogue avant les enregistrements numériques, c'est unique, puis il y a rien qui va pouvoir dépasser ça. La richesse du son analogue, des basses analogues, rien à voir avec la compression numérique qui est arrivée avec les enregistrements numériques après 84.
Fait que ça leur donne, pour les millennials, allez là, ça va vous donner un cours de ce qu'était la culture de la génération X, ou la génération... la génération qui a grandi avec les blockbusters,
qui a grandi avec McDonald's quand c'était ta fête, puis tout ça, là, tu sais. Il y en a justement du
y a ton... les figurines de McDonald's, parce que tout le Ronald McDonald Land, ça n'existe plus maintenant, là. Ça, on voit plus Grosse Douceur, puis Big Burger, puis tous ces personnages-là qui étaient présents dans les publicités de McDonald's dans les années 80-90. Et ça, c'est disparu. Ben, c'est quand même super magique. Là, t'allais au parc Ronald McDonald, puis ils avaient toutes. C'est une expérience vraiment unique. Puis
attirait les enfants. Fait que là, les parents, c'était ceux qui allaient suivre. Là, on dirait, à cette heure, c'est le contraire.
Ben,
t'as du café, c'est gris. Tu sais, juste le building extérieur, il est rendu gris. Je sais pas si vous avez remarqué.
Ben oui,
puis avant, c'était des couleurs disparates, comme si c'était un enfant qui s'était habillé le matin avec un bas rouge, un bas brun, un t-shirt bleu marin. Tu sais, c'était complètement...
C'est clair. Ben aussi, il y a eu des lois qui se sont appliquées sur la publicité
qui font en sorte
qu'on peut pas vendre des choses aux enfants.
Ouais,
on peut pas viser les enfants pour le marketing parce que c'est malsain.
C'est très. Mais ils font autrement, de subtilement. Ouais. Puis ça passe par les TikTok et autres crap qu'ils ont trouvé par la suite. Hey, mais le Cobra, juste pour faire une dernière parenthèse, là, parce que c'est là qu'on s'est connus. Le propriétaire, là, il est comme nous, là, c'est un collectionneur, là, il ramasse tout.
Oui, Anthony Jourdouin, c'est clairement un collectionneur.
Oui.
Puis le nombre de trucs qu'il continue d'acheter pour le bar, c'est pas mal inspiré diner américain que tu retrouves justement des plaques d'immatriculation de tous les États américains, puis avec des espèces de trucs empaillés, là, de taxidermie fucked up. Puis tu sais, il y a comme une naissance de ça dans les années 80-90 des espèces de diner thématiques de collectionneurs.
Mais on n'a pas beaucoup ça à Montréal, je trouve. Moi c'est
qu'avant. Ouais. Mais il fut un temps, tu sais, je me rappelle, le Eastside Mario's, il y avait un peu ces affaires-là, genre des espèces de pancartes de coins de rue de Montréal ou de Paris.
Ouais, le côté petit kitsch vintage, là, puis des stops, puis des arrêts, puis des sens uniques.
Exactement.
Oh my God, ouais. Mais moi, la fois que je suis allé, là, j'avais vraiment été impressionné. Puis nous, ben c'est ça, je veux savoir, t'es DJ, VJ, mais t'es collectionneur, là, t'as cette maladie-là qu'on a.
Mais je pense que tout le monde a un peu cette maladie-là, puis mais c'est sûr que aussitôt qu'on tombe dans un environnement, tu sais, moi, n'ayant fait de la radio universitaire, mais c'est quelque chose qu'on pogne aussi à un très jeune âge, tu sais, j'ai toujours une fascination pour la musique, mais aussi pour le cinéma, puis les jeux vidéo, puis au fil des années, tu sais, j'ai collectionné toutes les consoles de jeux vidéo. J'avais la chance aussi que mes parents avaient des magasins, il y avait un magasin électronique qui nous permettait d'avoir tout le temps la nouvelle console de jeux vidéo à chaque année, puis il y avait un département de disques aussi que j'ai pris en charge quand j'avais 14 ans, que là, je me suis permis de commander tout ce qui était sous la rubrique alternatif dans le catalogue. Puis là, j'ai fait des essais-erreurs, là, j'ai acheté des merdes aussi, là, puis tu sais, j'avais pas le choix. C'est une fois qu'il est déballé, tu peux pas leur mettre sa tablette. Là.
Fait que t'étais le buyer. Là.
Ouais.
Tu dis, c'est pour le magasin, mais dans le fond, c'est pour ta consommation personnelle. Là.
Exactement. Puis mes parents étaient comme, qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces disques-là? Tu dépenses tout ton argent pour rien, c'est de l'argent que tu pitches par les fenêtres. Puis finalement, je suis devenu DJ, puis maintenant, ils comprennent.
Tu gagnes ta vie avec ça.
Exactement.
Tu gagnes bien ta vie. Hey, qu'est-ce que ça fait avec tout ces vinyles-là, je veux dire, tu dois avoir une grosse collection aussi, commencé jeune ou...
J'ai commencé quand même jeune, mais il faut dire que moi, j'ai 44 ans, fait que moi, j'ai été un peu pris par surprise par l'ère du CD.
Okay.
Fait que là, j'ai une énorme collection de CD, là, j'avais peut-être 8000 CD, puis à un moment donné, ma copine de l'époque, elle m'a dit, là Mathieu, là, ça prend trop de place, la collection de CD, tu les écoutes même plus, anyway, t'écoutes juste tes vinyles, calisse-moi ça au bout de tes bras. Puis là, j'ai fait un party quand je me suis séparé de mon ex, puis j'ai invité tous mes amis, puis j'ai comme tout mis ça dans des sacs en plastique en avant de la maison, puis tout le monde est parti avec.
T'es pas sérieux. Ouais. J'aurais aimé ça être ton ami dans ce temps-là.
Mais j'ai gardé les meilleurs, par contre.
Ah, OK.
Tu sais, je me suis fait envoyer bien de la merde à CISM. J'ai quand même été, grosso modo, 20 ans à CISM. Là.
OK, puis le monde t'envoyait leurs démos, leur premier album. C'est pas tout le monde que...
Ouais,
c'est pas tout des Arsenic 33.
Non, c'est pas toute la qualité, ouais, c'est ça. Mais par contre, la musique que je m'apprête à mettre, c'est la qualité. Puis je tiens à préciser que c'est le prochain bloc qui est dans la thématique de la ville de Québec. Parce qu'à Québec, il y a eu une grosse scène de punk garage dans les années fin 80, début 90. Et un des groupes qui est le plus influencé, on va en parler après parce que c'est la deuxième chanson, mais le premier groupe que je vais faire jouer, c'est un groupe assez obscur qui s'appelle Les Enfants Chiennes. Et la chanson s'appelle Jamais été. C'est tiré de la compilation Blow the Fuse, pas pourri de qualité, qui est sortie, si je ne me trompe pas, en 94. Et Les Enfants Chiennes, c'était en fait Vincent qui était le drummer des Secrétaires Volantes dans la deuxième mouture des Secrétaires quand les Secrétaires ont ménagé à Montréal pour leur deuxième album Thermoplastique. Et Vincent aussi a fait un autre avec le chanteur qui Frédéric Cyr. Ils ont fait un autre band qui s'appelle Les Vipères aussi, qui ont fait aussi un split avec un band de Chicoutimi. Donc, on va écouter la pièce « Jamais été » des Enfants Chiennes sur les ondes du 90.3 CKUT. FM.
J'entends les oiseaux sur les ondes de CKUT 90.3. Vous êtes au lendemain de la veille et on a Mathieu Matrock avec nous qui fait le DJ et qui va nous expliquer plein d'autres belles choses. Les Secrétaires Volantes, que dire de ce groupe
Ben moi, ça a été le groupe pourquoi j'ai fait de la radio et pourquoi je suis devenu DJ. La première fois que j'ai ouvert CISM 89.3 FM, c'était la pièce Solange, es-tu réveillé des secrétaires volantes. Et ça m'a tellement marqué que je me suis dit, il faut que je fasse un show de radio là. Puis finalement, j'en ai eu un pendant 20 ans. Et la pièce qu'on a entendue, c'était Un oiseau dans le réacteur, tiré de leur deuxième album, Thermoplastique, qui est sorti en 96, si je ne me trompe pas. Et c'était beaucoup plus lo-fi que le premier album, Méconium. Puis ça a mis un peu la scène de la ville de Québec, sa map, parce que les enfants chiennes qu'on a entendus juste avant, jamais été, ce qui est tiré de la compilation Blow the Fuse, pas pourri de qualité, qui a été sorti par Blow the Fuse, c'est le label de Gourmet Délice, qui est le bassiste de Secrétaire Volante, qui fait maintenant Bon Sound et qu'il s'est tellement fait crosser dans ses gigs des secrétaires volantes qu'à un moment donné, il s'est dit « Bon, ben, je vais partir ma propre compagnie de production puis je vais faire en sorte qu'on y aille chercher des subventions pour que tous les musiciens soient bien payés. » Parce que ça devient un job à temps plein à un moment donné. Là, quand tu commences à tourner puis que tu te ramasses avec des 50$ pour 5 musiciens, là, puis t'as de la
ça misère, paye pas ton gaz.
T'as de la misère à t'acheter un pack de smoke puis manger. Là, c'est pas...
C'est pas le rock and roll lifestyle qu'on rêve tout.
Exactement, c'est ça. Fait que c'est ça. Le rêve de la rockstar est souvent se faire ramasser dans le détour. Mais non, c'est ça. C'est le fait qu'on a eu aussi au Québec, on a eu une couple de bonnes sociétés qui permettaient la SOPREF aussi là, de M. Bisaillon.
Des French
Bees, ouais, c'est ouais. Ça. Quand une société de protection de l'espace francophone qui permet d'aller, qui vont t'épauler dans ton remplissage de documents pour avoir des subventions.
Il existe-tu toujours cet organisme-là?
J'en ai aucune idée. Ouais. Moi, j'ai travaillé à boutique Kérosène.
C'est Ontario, ouais, avec PADCA. Ouais.
Quand j'étais coloc avec PADCA, justement.
Ben, on doit s'avoir rencontré. J'allais acheter des CD. Là, Arsenic, c'est là que j'ai acheté ça. Rose Noir, c'est là que j'ai acheté ça.
Rose Noir vient de Joliette. Moi, je suis un gars de la Naudière, en plus. Fait que j'allais au cégep avec eux autres.
Hey, le Paris qui brûle ou Paris sous les bombes. Mais là, Paris sous les bombes, ça a l'air NTM. En tout cas, il y a une tonne de Paris. Je t'ai montré le CD, man, ça toche.
Ah, c'est fucking bon.
Ça toche. Ah ouais, on en cherchait une.
Moi, j'étais flabbergassé quand j'ai vu ça au cégep. Là. Mais ouais, on a eu toutes les bands punk.
Le Kérosène. T'as-tu écrit pour le King Size aussi de PADCA?
Non, je pense pas que. Je pense que j'ai toujours sous-estimé ma plume. Là. Je me suis toujours considéré plus une personne de radio, de communication orale que par écrit.
À radio, as-tu fait des entrevues là, qui t'ont marqué ou du monde, là, que ce soit local ou on va dire international, qui passait par la station?
Oui, j'ai fait beaucoup d'entrevues mémorables. J'ai eu entre autres Bérurier Noir en entrevue.
Sérieux.
Oui, j'ai eu Crass en entrevue.
Ils sont pas faciles, hein, je pense, eux autres, en entrevue, c'est pas...
Plus facile que je pensais.
Ah ouais, OK.
Mais j'ai pas eu Penny Rimbaud, là. J'étais avec Steve Ignorant, là, que c'est quand même le plus sympathique de la gang.
OK.
Fait que c'est beaucoup plus facile, mais tu sais, ben, Beru, c'est quand même une entrevue d'une heure et quart, puis Crass, ça a été pas mal la même durée.
Okay.
Sinon, j'ai fait aussi, quand il y avait eu... le Willy Weekends, qui était un festival de rock garage puis rock psychédélique au théâtre de la Plaza Saint-Hubert. Ils ont fait venir un paquet de vieux bands des 60s comme Question Marks and the Mysterians puis l'Electric Prunes. Puis j'ai reçu les deux en entrevue. J'ai eu les Gorries en entrevue. J'ai eu un paquet dans le garage, j'en ai eu en salle. Là. Et j'étais bien chum aussi avec la gang des Space Shits puis des Sex Arenas. Puis j'ai eu les Gruesomes à quelques reprises en entrevue. Puis je vous achetais toute une sélection de bières importées, puis il était bien content.
Le groupe à PADCA, on répète, comme on l'a déjà dit. Mais...
C'est pas son band à lui, mais c'est son
band. Non, son band fétiche.
Oui, bien, c'est très important parce que pour le Garage Revival au Québec, c'est les premiers, tu sais, en 83, qui ont sorti Jack the Ripper, leur premier 45 tours. C'est Primitive Records, Eduardo, qui avait le Primitive sur Saint-Denis, qui est devenu le Sonorama maintenant dans le Milan.
Ah, je savais pas. Ouais. OK, merci de nous apprendre ça. Okay.
Ah oui.
Primitive, c'était plat. Je pense que c'est une place de taco à Star. Je pense
oui, c'est
une
place de taco.
J'adore les tacos. Là.
Ouais,
j'adorais les vinyles aussi avant. Oui, ouais,
ça serait fait de jubiler les deux.
Ouais, exactement. Tu écoutes un vinyle avec du juice de taco qui te coule entre les deux.
C'est malade.
Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à... Moi, tu as fait des super bonnes entrevues. Explique-moi, les Sexeur Reno, il y a un lien montréalais avec eux, hein, je pense.
Oui, oui, c'est des Montréalais.
OK.
C'est barbecue, genre barbecue Marc Sultan, en fait, qui était dans les Spaceships. Okay. Parce que Spaceships, ça a été comme un des premiers bands de punk garage à signer sur un label américain. Il avait signé avec Sympathy for the Record Industry.
Ben oui.
Puis cool, les Sex Arenas, c'est comme qui découlait des Spaceships parce que tu avais Marc Sultan, a.k.a. Barbecue. Il y avait Roy Vuccino qui jouait aussi dans CPC Gangbangs après. Il y avait aussi Danny Marks qui était aussi le drummer des Spaceships. Fait que, tu sais, c'est comme c'est cette famille élargie-là du rock garage du West Island, d'ailleurs, parce que...
Oh my God!
Parce que King Can, qui était dans Spaceships, King Can, il vient de Pierrefonds. Et Danny Marks, le drummer des Spaceships, vient de Pierrefonds également.
Ah ben tabarouette, tu m'en apprends des bonnes.
Donc, Pierrefonds est un peu la ville du rock.
Le Liverpool de Saint-Hyacinthe, là, c'est le du garage, je sais pas, c'est le Liverpool
c'est
du
le
garage.
C'est le Manchester du rock garage.
Parce que là, tu parles de King Can and the Barbecues.
Ouais,
King
Can and Barbecue, Barbecue, lui, vient de Châteauguay.
OK.
Puis Roy Vuccino aussi vient de Châteauguay. Mais Danny Marks, le drummer des Spaceships, et le drummer des Sexerinos, et le drummer des Del Gators, et le drummer des CPC Gangbangs et le drummer d'à peu près 25 bands de garage super importants du Québec qui ont été signés sur des labels américains qui ont tourné à travers le monde. C'est
grâce à lui. Hey, West Island is in the house, baby. On va y aller en pause tout de suite parce qu'on pourrait continuer, toute la journée. On vous revient après cette pause et vous allez écouter d'autres belles anecdotes sur le lendemain de la veille sur CKUT 90.3 FM.
Join us for this year's edition of Shoney Market, winner of the Time Out's Best New Event Award for 2021. Shoney Market is a parade of 200 corgis, flavors from around the world, with over $3,000 in student giveaways from Desjardins and incredible artists like High Classified, Perio Millennial, and Mansa and Friends. To learn more about the programming, participating restaurants, and contests, head to Instagram at ShoneyMTL. That's ShoneyMTL. Shoney Market, the taste of downtown. From September 8th to 11th, between the Guy Concordia and Atwater Metro stations.
Union United Church, Cinema Politica, and Catbird Productions are proud to invite you to a special community screening of Dear Jackie, a feature documentary by Henri Pardon. This special event will take place in Little Burgundy's historic Union United Church on Thursday, September 1st at 7 p.m., and the screening will be followed by a discussion with the director and participants from the film. Dear Jackie poetically tells the story of one of the oldest black communities in Canada, Montreal's Little Burgundy, by way of a cinematic letter to Jackie Robinson, the first black man to break the color barrier in professional baseball. It also masterfully connects to the present by challenging the myth of a post-racial society. Make sure not to miss this special event. Admission is on a first-come, first-served basis, and a minimum donation of $5 for the church is highly recommended. This event is sponsored by Caisse des Jardins du Sud-Ouest de Montréal and the Sud-Ouest Borough of Montreal. For more information, visit cinemapolitica.org. We hope to see you there. This is a CKUT co-presentation.
Montrealers were so proud it happened in their city.
MTL versus racism.
Montreal versus racism.
MTL versus racism.
A concert united against racism and discrimination.
Un concert uni contre racisme et la discrimination.
Saturday, the 10th of September, 6 to 10 p.m. in Girouard Park.
Samedi, le 10 septembre, 18h à 22h à Parc Girouard Indigé.
Avec des performances de
Jonathan Emile,
Shawit,
Maritza,
Remy Picasso,
Paul Carniello,
DJ Lady Oracle.
Collecte de fonds pour Résilience Montréal.
Raising money for Resilience Montreal.
Tout le monde et tous les âges sont bienvenus.
Everybody is welcome.
This is a CKUT co-presentation.
Il joue de la guitare en salle. Il fait
En compagnie de Mathieu Matrock, excellent. Dis-moi qui a joué à l'instant même.
C'était le groupe québécois Camionnette avec la pièce André, qui est en fait une reprise L7, et je voulais absolument faire un petit shout-out à mon premier mosh pit à vie que j'ai vécu au Lollapalooza de 1994 devant le show de L7, qui était le deuxième band qui ouvrait après le groupe japonais Boredoms.
Wow. Moi, le seul Lollapalooza que j'ai fait, c'était à Barrie en Ontario, avec Rage Against the Machine qui ouvrait le show et Primus, ouais, Primus ou Alice in Chains qui finissait le show, je me rappelle plus le hey Tool à ce show là, Fishbones,
ouais,
j'ai plein d'autres, Rage Against the Machine qui
Front 2K2.
Ouais, Front 2K2, c'est vrai, du gros techno. Au rap, c'était Arrested Development,
ouais,
qui ont juste fait un album 3 years 2 days 1 day 50 secondes. Mais hey, dis-moi, je change de... J'ai hâte. En passant, Rage Against the Machine vont être au Festival d'été de Québec après l'annulation de la dernière année.
Ils les sont deux annulations.
Hein?
Les deux annulations des deux années de COVID, en fait.
Ah oui, à chaque année, il était supposé de...
Ouais, okay. Il était revenu, censé revenir. Puis
bon, ben là, c'est la troisième chance après Three Strike, You're Out. Fait qu'on veut voir Rage Against the Machine sur les plaines d'Abraham, s'il vous plaît. C'est le dieu de la musique qui nous écoute.
Tu les as déjà vus?
Hein?
Tu les as vus,
ouais,
Rage? Moi aussi, je les avais vus à l'Auditorium de Verdun pour la tournée Evil Empire avec Jesus Lizard dans la première partie.
OK, ça doit être popé.
C'est fucking
mais bon. L'Auditorium de Verdun, c'est mix review pour moi pour la salle, mais Rage, c'est Rage. Là,
ouais.
Mais, moi, ça m'a fait bien rire que Rage Against the Machine, que Lollapalooza, qui est dans le fond le chanteur de Jane's Addiction, qui est le grand Manitou derrière tout ça, les organisateurs étaient frustrés que le drummer de Rage Against the Machine drum dos au public. Et ils ont fait fi de leurs recommandations, ils ont quand même joué de dos. Et c'était le groupe qui a cassé la glace. Puis je peux te dire qu'ils ont cassé la glace d'aplomb.
Solide.
C'était débile.
En plus, ça faisait 2 ans que le premier album était sorti en 93 quand ils ont joué, mais il était inconnu. Mais c'est vraiment cette tournée Lollapalooza qui les a mis sur la map. Là.
Exact. Hey, change de sujet. Qu'est-ce que tu dis, toi, quand Non, ça reste en musique, l'inquiète-toi pas. qu'est-ce que tu penses comme. Admettons, je te donne l'exemple. Tu sais, Van Halen, Captain Jump.
Oui.
Là, on sait que Van Halen est mort et tout ça, mais David Lee Roth, Mr. Diamond Dave,
ouais,
qui est un personnage incroyable, on peut l'aimer, le détester.
Mais ça.
Il était approché par Armin van Buuren,
okay,
le DJ hollandais. Il a remixé la tune Jump. il a invité notre ami Dave de Van Halen, ouais. qui, lui, a toujours été ouvert à tous les styles de musique. Et il a chanté avec le remix de ce DJ-là. Et ça a joué dans un espèce de gros party, beach party à Miami. Je me rappelle pas les conditions exactes, mais Diamond Dave avait donné le feu vert, puis il était content que la toune elle soit remixée et elle soit comme accessible à une nouvelle génération. Est-ce que tu penses que le DJ, c'est où ça, son rôle de revamper des fois des tunes?
Tout à fait, donner une deuxième vie. On a eu le phénomène des mashups pendant un bout de temps, que il y avait deux chansons qu'on blend ensemble, un a cappella avec un instrumental, puis que ça fit à 100%. Je pense que le remix, ça a toujours été super important. Hein, puis justement, parce que tu sais, les DJ, c'est pas tant présent dans les années 50-60. C'est plus les radio DJ. Il n'y avait pas vraiment de DJ qui animait des parties. Tu arrivais dans des tavernes, puis il n'y avait pas de musique. Le monde regardait la game à TV. Le phénomène des DJ, c'est vraiment arrivé dans les années 70. Puis c'est vraiment avec les 12 pouces qui avaient tout le temps une version extended ou des versions remix ou des versions dub. Puis ça a tout changé, oui, justement aussi avec la scène dub jamaïcaine aussi, qu'ils ont commencé, tu sais, Lee Scratch Perry qui a commencé à faire des remix dub avec des tunes des Beatles. Puis c'est sûr que le DJ va apporter une deuxième vie à ben des chansons.
Fait que c'est une création musicale, c'est une nouvelle création musicale.
Tout à fait. Ça. Moi, je dis souvent, quand les gens miaissent et qu'ils disent que je ne suis pas un musicien ou un artiste, ben, je dis « Ouais, mais j'utilise la poésie des autres pour exprimer ce que je ressens. »
Oh,
fait que ça
bien
peut être
dit.
Une forme d'art en soi.
Touché, bien dit. Et plat dans les dents. Bon déjeuner, tout le monde. Quoi d'autre que tu nous fais découvrir aujourd'hui?
Ben là, on va écouter une chanson issue de l'album « Je suis décédé de merci » de Monsieur Toad, et on va entendre la pièce « Aline ». Et cette chanson m'a beaucoup marqué parce qu'il y a une espèce de clin d'œil à la scène de Cut and Paste, un peu comme « Torture Garden » de Naked City ou le « Early Mr. Bungle ». Et moi, ça m'avait fasciné quand j'avais vu ce live, puis ça m'avait jeté la gueule à terre. Fait qu'on va écouter Aline de Monsieur Toad de sur les ondes 89.3 FM. Non, 90.3
FM, sécurité.
Désolé, j'ai un mauvais pli. We'll be right back.
au ciel. La lune n'a pas fine, elle m'asperge de paraffine. Ce n'est plus une technique, ça reste grossier.
Je suis allé au garage et je n'ai rien appris. Y'en a qui disent que je suis fini, mais moi je m'en fous car je joue en vie. Ils diront ce qu'ils diront, mais moi je suis gentil. Je suis gentil. Je suis gentil.
Qu'on écoutait.
On écoutait Je suis gentil des Biberons Bâtis, tiré de la compilation Otaboy on meurt, qui réunissait les cassettes Otaboy on agonise et Otaboy on déprime, qui était paru les deux démo cassettes qui est paru dans les années 80, mais la compilation est sortie dans les années 90.
Wow. Et là, avant, là, si vous étiez en train de déjeuner, ça doit frapper fort. Le café, c'était un expresso bien frappé, comme on peut dire. Et là, tu me faisais, M. Todd, que je connaissais, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu l'album « Je suis décédé, merci, je suis décédé ». Mais tu me faisais remarquer, wow, l'espèce de collage, c'est vraiment du Mr. Bongo québécois.
Ah oui.
C'est fou.
Vraiment.
Avec le petit côté grindcore dans le tapis, Fantomas,
ah oui, les mythes, là. Ah oui, tout à fait. Moi, ça m'avait fasciné dans le temps. Puis surtout, live, il faisait encore plus cut and paste. Il avait comme, c'est comme s'il changeait de poste de radio à chaque fois là, qu'il passait du jazz au country à du grindcore.
Puis ça, c'était des excellents musiciens qui avaient leur propre label qu'on a déjà parlé. C'était les 10 Farmer.
Farmer Records, oui.
Ouais,
Daniel Farmer, le guitariste de Monsieur Todd.
Oui, ouais, c'est vraiment une belle redécouverte qu'on avait malheureusement presque oublié. Mais là, j'oublierai pas de te demander qui, là, dans ton émission de radio, aimerais-tu interviewer?
Ah, c'est sûr que j'aimerais vraiment interviewer Devo. C'est un de mes bands préférés de tous les temps. J'ai eu la chance de voir Devo deux fois live. Je les ai vus à New York et à Boston, back-to-back. Et c'est en 2007. C'est juste avant que Bob Two décède. Fait qu'il y avait quasiment tout le line-up original à part le batteur. Et c'est sûr que Mark Mothersbaugh, c'est un sale génie. Jerry Casale, c'est comme les Lennon McCartney de Devo. Puis c'est tellement un band bizarre qui ont été signés sur Warner Brothers. Puis qui ont été enregistrés par Brian Eno grâce à Iggy Pop et David Bowie. Ils sont assistés à la projection de leur film The Truth About the Evolution en 75 au New York Underground Film Festival. Puis les deux, ils sont faits. C'est comme malade. Puis ils sont allés voir Devo. Ils ont comme, on va présenter à mon ami Brian. Il va vous enregistrer. Brian étant Brian Eno. Et le reste, c'est de l'histoire. Puis ça reste un des meilleurs bands New Wave de tous les temps. Les 5 premiers albums, c'est incroyable. Après ça, c'est un peu moins bon. Là, mais écoute, au moins, la formule. Puis en plus, changer de costume à chaque show. Mmh. Puis avoir. C'est quand même. C'est un band comme les Residents, qui est comme un band artistique multidisciplinaire, puis même eux, ils ont étudié en en technologie des médias. Puis c'est comme ça que Devo est né. C'est un projet qui était censé être un Laserdisc. Puis le film The Truth About Devolution a été sorti en Laserdisc, qui est comme l'ancêtre du DVD, là, qui était gros un 33 tours. Et bref.
Qui était pesant, je pense qu'il était couleur or.
Oui,
aussi.
Oui, il était argent. Ça paraît comme un CD. C'est comme un gros CD, comme grand comme un LP. Là.
Ouais. C'est fou, hein? Ça n'a pas fait long feu comme
ça. Ça n'a pas marché ici, mais en Asie, c'était super populaire. Nous, le VHS était tellement populaire parce que nous, les Nord-Américains, on aime ça enregistrer nos émissions de télé. Tandis que les Asiatiques s'en crissaient, eux autres, ils voulaient. ils regardaient leurs films sur Laserdisc, puis la qualité était meilleure. La qualité était nettement supérieure, là.
Moi, j'avais un prof à l'université qui nous avait montré ce format-là que j'avais déjà vu, mais lui, il ne jurait que par ça. Puis il jurait que par les VHS de la marque Château. Il disait, avant telle année, ils sont de très bonne qualité, ils sont meilleurs que toutes les marques connues. Vous achetez la marque Château, que moi, je pensais que c'était tout le temps la plus basse
la
gamme.
La boîte.
La boîte, mais ce n'était pas, d'après lui, après... En tout cas, grosse parenthèse, gros flash, gros flashback ce matin. Hey, mais Devo puis Residents, on peut-tu dire que c'était des bands... bon, c'est des bands conceptuelles, mais c'est des art bands, tu sais, des art projects. C'est,
oh oui,
c'est quoi comme l'étiquette de ce genre de...
Les Residents, on pourrait dire que c'est la musique d'avant-garde. Je pense que ce serait la meilleure étiquette qu'on pourrait les discerner. Tandis que Devo, il y avait un côté beaucoup plus rock, new wave, punk. Mais comme Devo se dit ce jour d'entrevue, il était trop new wave pour le punk, puis il était trop punk pour le new wave.
Ouais, c'est ça. C'est ça, ils n'ont pas d'étiquette. C'est bon que les groupes se mettent pas d'étiquette. On fait de la musique, point. Final,
c'est clair.
Ça. En parlant de pas d'étiquette, si... Je te dis, c'est quoi le secret le mieux gardé présentement ou même avant dans le côté musique? Là. C'est quelque chose là, qui ne passe pas sur le radar ou je sais pas. Y a-tu de quoi de caché là, qu'on devrait découvrir? Là,
Moi, je vais prôner pour ma famille. Là. J'avoue que mon frère et mes cousins ont un groupe qui s'appelle IDALG, qui est les acronymes de « I danse avec les genoux ». C'est un groupe de space rock, un peu comme Hawkwind en français.
Le premier band de Lemmy de Motorhead.
Le deuxième band de Lemmy de Motorhead.
C'est vrai.
Son premier, c'est les Rocking Vickers. Puis ça ressemble beaucoup à Hawkwind. Puis c'est un groupe de space rock. Là. C'est psychédélique avec beaucoup de synthétiseurs. Puis c'est en français. Puis ils ont été signés sur un label belge qui s'appelle Teenage Menopause. Puis ils ont fait deux tournées européennes. Puis... C'est un super bon band. C'est quand même pas récent. Là. Ça a été sorti en 2011. J'ai revisité récemment parce que j'ai une nouvelle copine puis je faisais voir les vidéos, dont un j'ai filmé. Mon frère est réalisateur de vidéoclips aussi. Donc, en tout cas, bref, puis j'en venais pas à quel point que ça vieillit super bien, dû au fait que c'est quand même un son... Qui vient du passé, mais avec une touche vraiment futuriste ou rétro-futuriste en même temps. Puis beaucoup de trucs un peu crowd-rock à travers ça, là, qui nous rappellent un peu Neu ou Cannes ou les bands de crowd-rock allemands.
Puis c'est-tu des tunes qui durent comme vraiment 8-10 minutes ou il y a un peu de tout?
Il y a un peu de tout, là. Disons qu'il peut avoir des tunes un petit peu plus punky qui peuvent durer 2 minutes et demie, comme il peut avoir des tunes de 6-7 minutes, oui.
C'est-tu en français ou?
C'est tout en français.
C'est tout en français, ouais. OK. Répète le nom du groupe.
Ça s'appelle IDALG, I-D-A-L-G. C'est les acronymes de I danse avec les genoux. Un hommage à Kevin Costner.
Okay. Ben, il danse avec les loups, OK, mais les genoux, OK, jeu de mots de jeu.
Ouais.
OK, je ne suis pas réveillé, je vais me donner une coupe de claque dans la face ce matin.
C'est le lendemain de veille.
C'est le lendemain de veille, c'est toujours le lendemain de veille. Oh my God. Autre chose que je voulais te mentionner, toi, es-tu plus, je sais que tu traites plus la période analogue côté musique, mais je sais que tu es VJ, il faut que tu emmènes des fois ton stock dans des événements. Tu te promènes pas avec 4 caisses de lait, avec des vinyles, des premiers pressages. T'arrives avec du on va dire du MP3 de haute qualité ou
Plus ou moins, là, je vais préférer le format MP4 ou qualité supérieure ou même Wave à la limite. Mais souvent, je vais acheter ma musique pour l'émission de cette semaine, puis celle de la semaine dernière. J'ai comme tout acheté sur iTunes Store pour Merci. Avoir la plus haute résolution possible. Sinon, j'utilise beaucoup de sites de streaming qui sont maintenant compatibles avec mes logiciels de DJ. J'utilise DJ Pro qui me coûte quand même 10$ par mois, un peu comme Netflix, qui est linké sur Tidal, qui est comme un peu le Spotify des riches. C'est un service de streaming qui coûte 27,99, qui est un service pour audiophile. Les tracks sont beaucoup plus lourds. Des fois, il faut avoir une bonne connexion Internet parce qu'ils sont longs à loader.
Okay.
Mais le résultat est vraiment... Puis surtout, en plus d'avoir des chansons en haute résolution, ils ont aussi des vidéoclips et des performances live en format 4K. Ou en super haute résolution, que je peux mixer aussi durant mes soirées de VJ.
OK, parce que tu utilises ces vidéoclips-là, ces images-là de leur banque ou de leur librairie.
Tout à fait, mais c'est juste une infime petite partie de mon set par rapport à ce que j'achète sur iTunes Store pour avoir aussi en haute résolution, puis pour les avoir en format physique, entre guillemets, pour pouvoir... pour pas avoir du temps de loadage trop
De gear, ouais. À traîner. Fait que l'image qu'on a du DJ qui se promène avec ses casolets, les vinyles, c'est fini.
Non,
il se promène avec des hard disks, des boîtes de disques durs.
Ben, c'est sûr que le DJ vinyle va toujours rester, puis j'en fais quelques-unes par année, mais je vais les choisir, puis il faut qu'ils soient vraiment payantes, puis en fait, c'est parce que je suis tellement nerd d'avoir mes first pressings que si mon budget me le permettait, je les réachèterais toutes en version en repress récent. Puis surtout avec le format 180 grammes qu'on a depuis les 20 quelques dernières années, c'est beaucoup plus difficile à égratigner. Puis le son aussi est très bon. C'est sûr qu'il faudrait que je me rééquipe tout en repress pour pas abîmer mes systèmes de collection qui valent la peau des fesses.
J'en doute pas. Fait que t'as-tu deux tables techniques avec le mixboard?
Non, j'en avais, là, mais là, j'ai abîmé beaucoup mes tables au fil des années en les traînant dans les gigs. Maintenant, j'ai loué, si je fais des événements finils, okay. je l'ai loué au Mugozio. Ou sinon, la plupart des salles de spectacle et des clubs, ils fournissent les tables. J'ai juste apporté une aiguille.
Ah oui, OK. Fait que, OK, c'est cool.
Puis ils ont déjà des techniques d'osant. Puis c'est surtout depuis qu'ils ont arrêté de les fabriquer, ils sont un peu plus difficiles à trouver qu'avant.
Ouais.
Puis ils sont plus chers, mais il y a quand même toujours moyen de trouver des bonnes techniques d'osant à un prix quand même abordable.
Mais là, il y en a ressorti là, des nouvelles séries qui coûtent la peau des fesses. Là,
Puis,
sont-ils aussi bonnes que les anciennes? Ça doit, c'est fait in Japan.
J'ai même pas testé les nouveaux modèles, mais je serais curieux de les essayer. Là. Sûrement que dans mon futur appartement, quand je vais avoir plus de place, je vais m'y acheter pour voir la différence.
Ouais, pour écouter ta collection de vinyles qui doit prendre la moitié d'un appartement? Ou...
Ouais, ben c'est ça. Là, j'habite dans un petit appart de célibataire. Là, je suis nouvellement en couple. J'ai hâte de pouvoir... parce que là, je me suis limité à 800 vinyles. S'il y a un vinyle qui rentre, il y en a un autre qui sort. Là, parce que c'est trop petit chez moi. Là.
OK. Ouais. Ah ben, je suis présent. Si tu fais de l'élagage, dis-moi quand les poubelles passent ou le recyclage, je vais aller attendre à 7h le matin. Je vais skipper une émission de radio juste pour être là. Hey, on y va tout de suite en musique, le temps à fil.
Oui,
puis,
tout à fait. En fait, on va écouter une chanson d'un groupe de mes amis qui s'appelle Jésus les filles. La chanson s'appelle Le dernier album de Beck. La chanson a un peu rapport avec Beck, mais il y a une portion qui parle de moi. Ça dit « Tu ne seras jamais Mathieu Beauséjour » environ à moitié de la chanson.
OK, on va porter attention.
Comme lui, que suis-je, comme lui.
Wow! Ça, c'était les George Leningrad?
Exactement, les George Leningrad avec la pièce « Mange avec tes doigts ». C'était tiré de Sangue Puro, qui était leur troisième et dernier album en carrière.
Manger du pâté chinois avec les doigts. Hey, la toune avant, wow! les paroles sont débiles. Qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as entendu ça?
Hey, c'est sûr, ça m'a fait une fleur. Il faut dire que j'étais très étroitement lié d'amitié avec Martin Blackburn, le chanteur de Jésus les filles. Et ben, tu sais, aussi, j'étais DJ pour leur premier show à Jésus les filles. Il y avait un autre band avant qui s'appelait Les Vautours, qui faisait la toune Tête de mort avec du feu. Puis j'étais là à leur premier show aussi. Fait que il a travaillé avec mon frère. En tout cas, c'est bref, on était.
C'est votre clique, c'est ta clique.
C'est ma clique. Puis souvent, après mes gigs de DJ à l'ESCO, ils nous invitaient dans des parties interminables dans leur sol. Puis ils disaient pour témoigner de son amitié pour moi, ils voulaient enregistrer une chanson qui parle de moi. Puis ça disait, tu seras jamais Mathieu Beauséjour, pas parce qu'il est DJ, pas parce que t'es pas DJ, parce que c'est mon ami, puis toi, tu l'es pas.
Et sur ces belles paroles, quoi d'autre ajouter? Hey, je vais te remercier de ta présence. Je sais que toi, tu spins à peu près à chaque soir, tu te couches très tard. Merci d'être là tôt. Je te laisse aller te recoucher en buvant deux gourous pour t'endormir ou te réveiller. Mais merci encore. C'est toujours agréable de parler avec toi de musique. T'en sais tellement sur la scène actuelle et passée de Montréal et de la scène alternative worldwide.
Ah, tout à fait. Mais ça va me faire plaisir de recontribuer à un futur épisode si l'occasion se présente.
Et c'est sûr, je vais créer l'occasion juste pour toi.
Ben, merci beaucoup.
Hey, merci à toi, puis on se revoit bientôt. Et vous écoutiez Le Lendemain de la Veille sur CKUT 90.3 FM. Merci, Mathieu.
Bonne journée.
Bye.
Vaccination against COVID-19 was more than 5 months ago. It's time to get another dose. Boosting your antibodies reduces the risk of getting or transmitting the virus. And booster doses help reduce the number of hospitalizations and deaths related to COVID-19. For better protection against the virus, book an appointment at quebec.ca/COVID-vaccine and follow the recommended vaccination schedule. Vaccination against COVID-19, a good way of extending our protection. A message from the gouvernement du Québec.
Join us for this year's edition of Shawnee Market, winner of the Time Out's Best New Event Award for 2021. Shawnee Market is a parade of 200 corgis, flavors from around the world, with over $3,000 in student giveaways from Desjardins, and incredible artists like High Classified, Perio Millennial, and Mansa and Friends. To learn more about the programming, participating restaurants, and contests, head to Instagram at ShawneeMTL. That's ShawneeMTL. Shawnee Market, the taste of downtown, from September 8th to 11th between the Guy Concordia and Atwater Metro stations.
Hi, I'm David Suzuki, and you're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. Information to grow the brain.